Bonsoir, merci d'avoir bravé la neige, le froid, le climat et tout le reste. Donc, nous allons reprendre un peu, sous un autre angle, les questions que nous avions abordées la semaine passée sur l'anarchisme, et on va peut-être le voir sous une autre forme, c'est-à-dire les contrastes qu'il y a entre la mémoire privée, personnelle, d'une part, la mémoire sociale collective de l'autre, et troisièmement, le travail des historiens, qui est quelque chose d'encore différent. Je dois faire peut-être une ou deux remarques préliminaires. La première, c'est que vous allez probablement être choqués, au moins avec vous, mesdames, parce qu'il n'y a pas de femmes représentées aujourd'hui dans les images que nous allons voir, pour la raison que je présente surtout la mémoire du 19e siècle et qu'à cette époque-là, les femmes, tout en étant particulièrement éminentes, ne sont pas très très vues par les hommes. Donc il n'y a pas d'image de ce côté-là. D'autre part, je vais vous donner une variété de points de vue qui ne sont pas forcément les miens, qui sont les manières dont les différentes personnes les différents groupes, etc., ont pu interpréter la mémoire. Et donc, nous allons faire un saut au 19e siècle pour commencer, mais nous finirons quand même par nous poser des questions tout à fait actuelles, rassurez-vous. Et pour commencer, je voudrais montrer un peu comment l'anarchisme, la mémoire anarchiste, hein, parce que je ne parle pas de l'histoire, mais c'est aussi une autre remarque que je voulais faire en commençant, je ne parle pas de l'histoire de l'anarchisme, je parle de la mémoire. Donc il y a beaucoup d'aspects de l'anarchisme que je ne vais pas du tout développer, et même des aspects de la mémoire, parce que c'est un sujet qui nous prendrait des heures entières si on voulait vraiment le traiter dans son entièreté. Vous pouvez toujours après poser des questions, faire des remarques, réclamer des clés. Complément et faire des critiques. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la mémoire individuelle et la mémoire sociale sont très profondément marquées par les normes qui existent à une époque donnée. Et donc, il faut voir quelles sont les normes qui, au 19e siècle, vont jouer. Nous sommes évidemment à la fin du 19e siècle, après la Commune de Paris, où le mouvement anarchiste est encore quelque chose d'extrêmement confus et vague, parce qu'il est mal connu, et parce qu'il a des formes extrêmement différentes. Donc, il va y avoir un premier ouvrage qui va apparaître, le premier ouvrage sérieux qui va apparaître, c'est seulement en 1901 que ce livre paraît, et c'est le livre de Hans Bakker. Et il va relever les affirmations qui sont actuellement dans les ouvrages précédents, les brochures et les journaux. Et voici un peu ce que ça donne. Mais d'abord, c'est vrai, il faut que je vous présente le plan de ce que je veux dire ce soir. Nous commençons donc par ces images brouillées de l'anarchisme qui sont présentées au 19e siècle et au 20e siècle. Et donc, dans une première partie, nous parlerons des constructions de la mémoire. Et nous verrons qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes. Et on passera un peu en revue à très grands sauts quelques-unes d'entre elles, de la Commune à la Grande Guerre. Puis nous ferons un énorme saut dans le temps pour regarder après mai 68. Alors dans la deuxième partie, on regardera davantage comment cette mémoire est mise en spectacle dans la Commune, dans les luttes ouvrières et dans l'illégalisme. Et enfin, dans la troisième partie, ça sera peut-être un peu plus théorique, mais ne vous effrayez pas, on essaiera quand même d'être clair, pour voir un peu la multiplicité des paysages dans lesquels nous réfléchissons et notre mémoire fonctionne. Donc, voilà quelques affirmations qui apparaissent à la fin du 19e siècle à propos de l'anarchisme. Elles ont été relevées de cet ouvrage dont je vous parlais, qui a consulté un peu tout ce qui existait à l'époque. Bon, il y en a quelques autres, n'est-ce pas? Là, je n'ai pris que cinq. L'anarchisme se résume par la négation de tout programme. Il n'a qu'un but négatif, il rejette le droit. Puis, le même bonhomme dit, l'anarchisme, ce sont l'essence même de l'anarchisme, ce sont ces tendances positives, et en même temps, il dit, l'anarchisme rejette la société. Bon, on voit pas très bien ce que c'est de positif que de rejeter la société. Mais bon, voilà un peu que les experts qui se prononcent à la fin du 19e siècle et qui essayent de donner à l'opinion publique une certaine perception du mouvement. Nous allons regarder, donc, à travers ce brouillard, nous allons regarder la mémoire d'une manière plus claire, mais nous allons faire un saut dans le temps, nous allons nous mettre à notre époque d'aujourd'hui, et j'ai fait une petite recherche sur Internet, dans une revue que vous connaissez probablement et qui s'appelle L'Histoire, pour voir un peu comment l'histoire parlait de l'anarchie, puisque c'est la revue la plus sérieuse en histoire, au point de vue grand public. Et voilà ce que ça donne, je ne sais pas si vous arrivez à lire, n'est-ce pas, résultat comme article, Anar, la décennie terroriste, anarchiste, la propagande par le fait, Espagne 36, je suis un anarchiste de droite, anarchiste et réactionnaire, etc., etc. Donc, vous voyez comment, en fait, et encore là, ils n'ont pas tout mis parce que j'avais vu beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, il y a de temps en temps un article sur l'anarchisme, mais en général, c'est toujours sur les illégalistes, les terroristes, la propagande par le fait, etc. Donc, c'est une vision qui est quand même, pour une revue qui est supposée être sérieuse, qui pose quand même quelques points d'interrogation. Donc, c'est dans ces cadres-là, du 19e siècle et du 20e, 21e siècle, que nous allons essayer de voir comment se pose la mémoire de la Commune, d'abord de Paris. Et là, la Commune de Paris, naturellement, je vais vous la présenter d'une manière qui n'est peut-être pas forcément dans vos manuels d'histoire, n'est-ce pas ? De la Commune à la Grande Guerre, donc voilà un peu le plan que je crois qu'on va suivre dans cette première partie, l'exposition des idées, la lecture savante, l'exposition des corps, etc. Oui, parce que, si vous voulez, là encore, nous allons avoir dans l'analyse de la Commune et dans l'analyse de l'anarchisme, un certain nombre d'actions particulièrement importantes de des gens qui vont jouer un rôle important dans pour expliquer l'anarchisme et pour construire la mémoire. Alors, la première exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celle de Paul Elsebacher, qui est un ouvrage qui s'appelle tout simplement L'anarchisme et qui va être traduit dans toutes les langues, enfin dans un très grand nombre de langues, et qui va donner une certaine image de l'anarchisme. Comment présente-t-il l'anarchisme ? Eh bien, il le présente selon des grandes doctrines, avec un certain nombre de... je ne sais pas si j'ai l'image ou pas, en principe, je devrais l'avoir, voilà. Donc, il va nous présenter quelques grands personnages de l'anarchisme. Nous avons Proudhon, Bakounine, Kropotkin, Élisée Reclus et l'Américain Benjamin Tucker, dont il va nous présenter les idées. C'est un modèle de perception qui est intéressant parce qu'il va être reproduit jusqu'à nos jours. On trouve encore aujourd'hui des livres qui résument l'anarchisme aux idées de quelques grands penseurs, avec un P majuscule, si vous voulez, des intellectuels. Alors, le problème, évidemment, de cette présentation de l'anarchisme par des grandes idées comme ça, c'est que c'est en dehors du temps, c'est en dehors de l'histoire, c'est figé pour l'éternité, et on ne se rend pas compte que, par exemple, bon, les écrits de Bakounine, par exemple, beaucoup de ses écrits n'ont pas été publiés de son vivant, parce que c'était un homme extrêmement actif, il n'avait pas le temps, donc c'est venu après coup. Les écrits de Proudhon, ils sont très liés à l'histoire qu'il vit au fur et à mesure. Et en plus, n'est-ce pas, comme tout le monde, ses idées changent au cours du temps. Donc, figer les idées de cette manière-là, c'était un travail honnête qui a été fait. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces personnes qui ont été mentionnées par lui, qui lui ont écrit en disant qu'il avait fait un travail honnête. Le problème, c'est qu'un travail honnête, mais complètement coupé du temps, ça crée des clichés, ça crée des stéréotypes, ça fige l'anarchisme, dans quelques grandes idées, quelques grands penseurs. Alors, le problème de l'anarchisme, c'est qu'il n'y a pas de père. L'anarchisme n'a pas de père. La plupart des grandes religions, il y a toujours un fondateur, les grandes philosophies et les grands mouvements sociaux aussi. L'anarchisme, non. Il y a beaucoup de pères. Voilà donc une première grande interprétation qui, sur le moment, n'a pas eu beaucoup d'influence sur son époque, mais qui, finalement, continue d'agir encore de nos jours, puisqu'on trouve encore des interprétations de ce genre-là aujourd'hui, des ouvrages de cette manière. Des gens qui disent quelque chose, savoir qu'est-ce que c'est que l'anarchisme, donc ils se penchent sur les grandes théories, les grands théoriciens. Alors, il y a une deuxième approche qui, elle, n'a pas duré tellement longtemps comme telle, mais qui a eu à l'époque une très grande influence, c'est celle du fondateur de la criminologie, un des fondateurs de la criminologie en Italie, le professeur Cesare Lombroso. Alors pour lui, ce qu'il va faire, c'est étudier les crânes des gens, les squelettes, il va étudier des milliers et des milliers de crânes de squelettes, et il va avoir la théorie qu'il y a des criminels nés, et qu'on peut le savoir à l'avance en regardant les formes de leur crâne, de leur visage, et ainsi de suite. Ça va avoir évidemment une très grande répercussion dans la presse, dans les médias. Il va être extrêmement célèbre et naturellement, il va publier un livre qui sera un best-seller pour l'époque. Ah, tiens, il y a une image qui manque. Ah oui, non, c'est bien celle-là. Vous voyez à droite, n'est-ce pas, c'est peut-être pas très lisible, n'est-ce pas, il vous marque des révolutionnaires et criminels politiques par passion. Alors ceux-là, n'est-ce pas, ils n'ont pas forcément des crânes qui les prédisposent, c'est la passion quand même, n'est-ce pas. Alors vous avez donc un criminel comme Mirabeau, qui n'a, que je sache, vous avez Bakounine qui n'a tué jamais personne, etc., etc. Donc on voit très bien que nous avons là aussi un schéma qui va être appliqué à la réalité et qui va jouer évidemment bien sûr sur les mémoires des gens dans la mesure où ensuite, par exemple, Lombroso est très proche des socialistes et il critique les énormes déficiences de l'ordre économique. Alors il fait une distinction quand même entre ces anarchistes évolutionnistes, ceux qui croient au progrès, parce que ceux-là, ils sont respectables, et puis les révolutionnaires qui, eux, au contraire, sont des criminels. Sa typologie donc inclut les criminels passionnés, des êtres définis comme moralement sains et équilibrés, mais qui développent la pathologie révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous êtes révolutionnaire, n'est-ce pas, c'est que donc il y a un problème pathologique chez vous, il va falloir vous soigner. Lombroso sera peu à peu récusé, notamment par les sociologues. Néanmoins, ces échelles de il faudra une échelle de race, par exemple, aussi. Alors, bien entendu, avec le blanc tout à fait au-dessus, le jaune ensuite, et puis le noir tout à fait au-dessus, et naturellement, bon, ces bases racistes serviront évidemment, comme vous le savez, pour d'autres projets qui sont beaucoup moins, encore plus aussi. Et puis, d'autre part, il y aura quand même des successeurs, en particulier Enrico Ferri, qui lancera les bases d'une criminologie multifactorielle. Ce que la criminologie retiendra de Lombroso, c'est l'idée qu'il y a un certain nombre de facteurs, et on travaillera en fonction des différents facteurs qui jouent dans la personnalité, et puis d'autres facteurs aussi, pour pouvoir analyser cela. Il y a donc l'approche, le schéma... Les couleurs savantes, il y a les couleurs de la criminologie et il y a une troisième série dont il faut que je parle aussi, c'est les couleurs marxistes, la critique marxiste qui va essayer de faire un inventaire des erreurs de l'anarchisme. En 1847, Karl Marx va lancer son fameux livre « Misère de la philosophie » qui est une attaque sanglante contre Proudhon et ses disciples, et 30 ans plus tard, il va attaquer Bakounine et va publier avec Engels un texte qui s'appelle « De l'indifférence en matière politique » et qui vise deux objectifs. Le premier, c'est d'écarter les ouvriers des idées anarchistes, et la deuxième, c'est de réfuter Bakounine, avec qui évidemment il a un conflit de personnalité, et on va l'attaquer dans son idée de vouloir l'abolition de l'État. Donc éloigner les ouvriers de l'anarchisme. Pour cela, eh bien, Marx va faire une démarche assez caricaturale, et vous pouvez regarder le texte qui est dans l'indifférence en matière politique, n'est-ce pas ? Il va d'abord réduire toute la pensée anarchiste à la pensée de Bakounine, réduire toute la pensée de Bakounine à la pensée de Proudhon, et à des idées de Proudhon que celui-ci avait rejetées plus tard. Voici donc la doctrine que Marx prête aux anarchistes. Les travailleurs ne doivent pas faire grève. Les travailleurs ne doivent, sous aucun prétexte, avoir une action politique. Il faut condamner toute action pacifique pour améliorer la situation ouvrière, car on aboutit à un compromis qui porte atteinte aux principes éternels. Ces affirmations ne sont pas, à vrai dire, caricaturales. Elles sont simplificatrices, parce qu'il y a toujours des gens pour tenir des points de vue les plus divers, y compris dans le mouvement anarchiste. Mais surtout, ce qui est très grave, c'est qu'elle s'érige encore une fois en principe intemporel des positions qui étaient liées à des conjonctures données. Elle fige l'anarchisme en une essence immuable et transcendante. Elles traduisent des générations hâtives, car si les ouvriers anarchisants sont hostiles à l'action syndicale, on va expliquer que quelques années plus tard, ils vont se lancer dans l'anarcho-syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire. Nous sommes vraiment dans la lutte d'influence, et évidemment nous allons avoir des mémoires sélectives. Le deuxième point de Karl Marx, c'est qu'il faut organiser un parti politique pour aboutir à une dictature du prolétariat. Et son argumentation semble absolument imparable. Je le cite parce que c'est très intéressant. Tous les socialistes sont d'accord sur le fait que l'État politique, et avec lui l'autorité politique, disparaîtront à la suite de la révolution future. Autrement dit, que les fonctions publiques perdront leur caractère politique et se transformeront en simples administrations veillant aux véritables intérêts sociaux. Donc là, il admet que l'État doit disparaître. Mais les anti-autoritaires demande que l'État politique autoritaire soit aboli d'un seul coup, avant même que ne soient supprimées les conditions sociales qui l'ont fait naître. Il réclame que le premier acte de la révolution sociale soit l'abolition de l'autorité. Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit. C'est l'acte par lequel une fraction de la population impose sa volonté à l'autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s'il en est, et le parti victorieux, s'il ne veut pas avoir combattu en vain, doit continuer à dominer avec la terreur que ses armes aspirent aux réactionnaires. La Commune de Paris eût-elle pu se maintenir un seul jour si elle n'avait pas usé de l'autorité d'un peuple en armes contre la bourgeoisie ? Ne faut-il pas, au contraire, la critiquer de ce qu'elle ait fait trop peu usage de son autorité. Donc, de deux choses l'une, c'est toujours Marx qui parle, ou bien les autoritaires ne savent pas ce qu'ils disent, et dans ce cas, ils ne font que semer la confusion, ou bien ils le savent, et dans ce cas, ils trahissent la cause du prolétariat. De toute façon, ils servent la réaction. Autrement dit, pour Marx, une révolution doit être autoritaire. Elle doit instaurer une dictature du prolétariat, car on ne peut pas abolir l'État d'un seul coup. Nous sommes ici en présence d'un non-dit. La révolution marxiste n'inclut pas dans son programme la suppression de l'État. Elle cherche à prendre le pouvoir. C'est une révolution politique. Ce n'est donc pas une révolution sociale. Car si l'État, comme le dit Marx, n'est qu'un reflet des conditions sociales, une révolution qui changerait les conditions sociales devrait de ce fait aboutir à l'évanouissement de l'État. On renvoie donc son dépérissement à des jours meilleurs. J'en passe sur les successions. Karl Kautsky, qui va écrire aussi contre les anarchistes en disant que l'idée d'avoir une fédération des communes est absolument absurde. Sur Bernstein qui dit que l'État n'est qu'un reflet de la situation économique. Et de Plekhanov qui, dans Anarchisme et Socialisme, va aussi s'en prendre aux anarchistes. Et puis, je termine également avec Lénine, qui lui va faire également une attaque en règle dans son ouvrage Anarchisme et Socialisme. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir un peu les différents points qu'il traite. Autrement dit, n'est-ce pas, nous sommes devant une véritable bataille très intellectuelle qui va ébranler le mouvement anarchiste dans le monde entier, enfin surtout dans l'Occident bien sûr, et qui vont faire qu'un très grand nombre d'anarchistes vont quitter le mouvement et vont rejoindre le Parti communiste. C'est le cas très largement aux États-Unis, c'est le cas aussi en Europe, dans beaucoup d'endroits. Donc il y a un ralliement vers les intellectuels de gauche, etc., et le déclin de l'anarchisme, déclin qui va d'autant plus augmenter que là, le pays où l'anarchisme est peut-être le plus développé, c'est l'Italie, et que Mussolini est bientôt au pouvoir, et puis nous allons avoir la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne. Donc, nous avons là une quasi-disparition du mouvement anarchiste à partir de cette révolution russe, et il n'y aura que le retour après les années 1960 pratiquement, même s'il y a eu beaucoup de choses importantes, mais je ne fais pas l'histoire de l'anarchisme comme je le disais. Les anarchistes aussi ont fait une construction de l'histoire. Il n'y a pas que les autres, que les savants et les marxistes, n'est-ce pas? Ils se sont cherchés des précurseurs. Et dans le cas des anarchistes américains, eh bien, ils ont cherché des précurseurs américains. Et alors là, j'ai trouvé qu'ils ont cité parmi leurs précurseurs Thomas Jefferson, qui a été président des États-Unis, n'est-ce pas, et qui dit « La démocratie n'est rien d'autre que le règne de la populace. Lorsque 51% des gens peuvent priver les autres 49% de leurs droits. » C'est un président des États-Unis qui dit ça. Thomas Paine, le meilleur des gouvernements est celui qui gouverne le moins. Le philosophe Emerson, qui est la quintessence de l'Amérique du 19e siècle avec le transcendantalisme. Tout État véritable est corrompu. Les hommes vertueux ne doivent pas obéir trop bien aux lois. Et puis Henri David Thoreau, que vous connaissez probablement, comment convient-il qu'un homme se comporte aujourd'hui à l'égard du gouvernement? Il écrit évidemment qu'il faut situer dans l'histoire à l'époque où il y a l'esclavagisme. Je réponds qu'il ne peut pas ici associer sans se déshonorer. Donc voilà quelques exemples que vont sortir les anarchistes américains pour reconstruire une histoire et se créer aussi une mémoire pour les besoins de leur entreprise. Les anarchistes européens vont faire pareil, et alors ils vont aller encore beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt dans l'histoire. Nous avons Max Nettlau, n'est-ce pas, les penseurs anarchistes complets, s'il y en a eu dans le passé, nous sont inconnus. Mais il est caractéristique que toutes les mythologies aient conservé le souvenir des révoltes et même de luttes jamais achevées d'une race rebelle contre les dieux les plus puissants. Des titans qui assaillirent l'Olympe, à Prométhée qui défia Zeus, des forces mystérieuses qui, dans la mythologie scandinave, provoquèrent le crépuscule des dieux ou du diable, ce Lucifer rebelle que Bakounine respectait tant, qui, dans la mythologie chrétienne, ne cède jamais et combat toujours le bon Dieu en chaque individu. Et puis nous avons une autre manière de répondre, qui est celle des artistes. Nous avons là donc Steinlein, qui est un artiste de la fin du 19e siècle, d'origine suisse, mais il vit à Paris, et qui dessine pour un journal anarchisant qui s'appelle La Feuille, l'image, n'est-ce pas, de l'homme qui pense en solitaire et qui est individualiste, et bien qui se fait écraser par les masses, qu'elles soient bourgeoises ou qu'elles ne le soient pas. Donc voilà un peu la manière dont l'histoire est conçue, n'est-ce pas? Et avec cette recherche des origines, il y en a d'autres évidemment que je n'ai pas développées, mais par exemple si on regarde la manière dont les Russes comme Kropotkin vont voir l'anarchisme, ils vont se baser, ils vont chercher des sources dans les origines paysannes, la communauté du Mir, d'autres vont le chercher dans l'Espagne. Kropotkin va insister beaucoup sur l'entraide qui existe au niveau de l'histoire humaine, et ainsi de suite. Aux États-Unis aussi, un autre anarchiste qui s'appelle Reclus va chercher des origines dans le protestantisme. Et j'en passe et des meilleurs. Mais nous avons encore des historiens actuels qui vont trouver encore d'autres origines. Comme quoi, vous voyez, quand on cherche des origines, on en trouve toujours. Et si nous voulons comparer avec ce qui se passe après mai 68, voilà un exemple alors de lecture marxiste. Je vous laisse lire. Et puis la lecture scientifique, alors là, ce que j'ai pris, c'est quelques exemples de thèses en histoire, et vous voyez que c'est toujours du point de vue de l'État, enfin, les thèses que j'ai choisies montrent bien qu'il y a quand même beaucoup d'assistance, c'est toujours le point de vue de l'État, n'est-ce pas ? La répression du mouvement ouvrier, l'antimilitarisme, entre ordre et liberté, le problème du droit, pluralisme juridique, l'attentat contre le président Carnot, l'antimilitarisme en Meurthe et Moselle. Bon, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est en train de changer et qu'on regarde des aspects beaucoup plus larges quand même que cela, pour des raisons assez différentes. C'est qu'il y a maintenant un certain courant parmi les jeunes qui s'intéressent à l'anarchisme pour des raisons extrêmement variées, qui demandent à leur professeur de faire des mémoires, des thèses sur le sujet. Alors le professeur dit d'accord, et alors on a une plus grande variété de mémoires qui sont naturellement pas forcément toujours de très bonne qualité, mais bien aussi excellents. Donc, nous avons l'historien professionnel, comme vous voyez, va se lancer non pas dans des êtres qui n'existent pas, mais sur des choses sont basées sur la mémoire collective. Donc, évidemment, comme la mémoire collective, c'est Ravachol, c'est Milhenrier et un certain nombre d'autres. Donc évidemment, il va accorder sa préférence quand il fera sa recherche sur ces grands aspects spectaculaires de l'anarchisme. Il y a une deuxième tendance qui est assez importante aussi à la fin du XXe siècle, c'est l'ouvrage de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, Les primitifs de la révolte, qui vont donner l'idée, n'est-ce pas, que les anarchistes sont des primitifs. Alors, on va dire que l'anarchisme au XIXe siècle, en fait, ce sont des artisans qui n'ont pas compris encore la révolution industrielle. Hobsbawm va faire, par exemple, une étude aussi sur la guerre d'Espagne. Il va montrer que les paysans d'Andalousie, ma foi, c'est des primitifs aussi. Ils sont incapables de comprendre un certain nombre de choses, et ainsi de suite. Voilà un peu comment cela se passe. Et donc, je passe maintenant à le deuxième aspect, comment l'anarchisme va apparaître sur la scène publique. Nous allons avoir deux thèmes. Dans un premier temps, l'accent est mis sur l'illégalisme ouvrier, les grèves et les émeutes. Mais avant cela, nous allons voir que ça a commencé, bien sûr, avec la Commune de Paris. Et je vais vous la présenter un peu différemment, comme je disais tout à l'heure, un peu prématurément, un peu différemment de ce que vous voyez en histoire. La société sans État, 1871, la Commune de Paris, une barricade. Vous savez qu'il n'y a pas eu de commune simplement à Paris, mais également à Marseille, à Lyon, à Toulouse et dans d'autres endroits. Voilà un autre exemple de la mémoire collective un peu oubliée, la chute de la colonne Vendôme, telle qu'elle est vue dans les préparatifs, etc. Et le texte est quand même intéressant. Vers midi, une foule de Parisiens se dirige vers la place Vendôme, où est prévue à 14h la démolition de la colonne, symbole pour certains membres de la commune du despotisme, du parjure du 18 Brumaire jusqu'à la honte de Sedan, le tout couronné par deux invasions. Les balcons et les fenêtres des rues de la Paix et de la rue de Castiglione, ainsi que ceux de la place, sont occupés par un grand nombre d'officiers, d'officiels et de curieux. Et voici maintenant, après la Commune, comment nous allons voir les choses, le retour de l'État. Voilà une photo où on voit, n'est-ce pas, la police qui va témoigner du grand scandale, du déboulonnage de la colonne Vendôme. Est-ce que c'est une reconstitution du passé ou la construction du réel à venir? Et voilà une autre mémoire, car la mémoire vécue quelquefois aussi, n'est-ce pas, nous la transmettons dans des dessins. Moi, je connais quelqu'un qui est toujours un philosophe contemporain, qui quand il voyage, il est intéressé par les églises et les monuments qu'il voit, et chaque fois qu'il voit un monument, il en fait un croquis pour nous en garder le souvenir. Et bien là, nous avons un souvenir de quelqu'un qui a été aussi très proche de l'anarchisme, parce qu'il était un grand ami de Proudhon. Il s'agit du peintre Courbet, qui a fait un croquis au fusain, n'est-ce pas, des gens qui ont été, des fédérés qui ont été emprisonnés et parqués aux grandes écuries de Versailles. Je passe maintenant, nous sommes dans les années 1871, nous continuons toujours dans le 19e siècle, et nous arrivons, là nous allons aux États-Unis pour le grand événement de Chicago en 1886, qui, comme vous le savez, est à l'origine du 1er mai. Bon, je n'entre pas dans l'histoire, je veux vous montrer comment la mémoire retient certaines choses et pas d'autres. Voilà, avant la fameuse grève du 1er mai, une réunion ouvrière, c'est simplement des ouvriers d'une seule usine. Là, je pense que ce sont des Slaves, l'usine de Bob de Horn. Il faut savoir, n'est-ce pas, qu'à cette époque-là, la plupart des syndicats ouvriers de Chicago sont tenus par des immigrants. Beaucoup, par exemple, les ébénistes, c'est les Allemands. Et si vous n'êtes pas allemand, vous n'avez aucune chance de devenir ébéniste, de pouvoir accepter d'entrer dans le travail. Donc voilà une réunion préparatoire. Comme vous le voyez d'ailleurs, devant, il y a aussi des enfants qui travaillent, parce que le travail des enfants n'est pas interdit à l'époque. Et voilà deux représentations contradictoires, qui sont des constructions, bien entendu. L'une, c'est la représentation par les anarchistes, et l'autre, c'est la représentation journalistique. En fait, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, bon, c'est que les policiers se sont tirés les uns sur les autres dans la panique de la bombe qui arrivait, et ont tué quelques-uns d'entre eux, et ont tué aussi un certain nombre de gens dans la foule. On n'a jamais su qui avait lancé la bombe, et parmi les condamnés à mort, il y avait des gens dont on savait parfaitement qu'ils n'étaient pas là du tout, puisqu'ils étaient en train de jouer aux cartes ailleurs, ou qu'ils s'étaient retirés dans un bistrot où tout le monde les avait vus avec leurs enfants. Voilà donc deux images qui vous présentent deux mémoires tout à fait différentes. La mémoire anarchiste se conclura, comme on le verra tout à l'heure, par la création d'un lieu de mémoire qui sera une statue à la mémoire de Haymarket, n'est-ce pas, parce que c'était là que c'était supposé se passer. Et les policiers auront eux aussi une statue pour se souvenir de leur mémoire à eux. Alors voilà par exemple l'enterrement des condamnés à mort. Là aussi, nous sommes en fait devant une reconstitution, parce que ça a l'air. Bon, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a des gens, pas des milliers de personnes qui vont venir. Mais les choses ne se passent pas aussi calmement, parce que la police a donné l'ordre que l'enterrement devra passer par le quartier irlandais, et comme les Irlandais catholiques sont très anti-anarchistes, on espère qu'il y aura des échafaudés. En fait, il n'y en aura pas. Et voilà le cimetière, donc encore un exemple de mémoire. Nous sommes maintenant en France, en 1905, et vous voyez là une grande grève qui commence à Limoges. C'est une grève contre un contremaître qui s'était accordé le droit de cuissage et qui était défendu assez légèrement par le patronat, qui ne se rendait pas compte à quel point ça créait un mécontentement dans le mouvement ouvrier qui réclamait sa, son renvoi, et il y a eu plusieurs cas, évidemment, etc., jusqu'à ce moment où les ouvriers sont allés charger les pans des armureries pour carrément se battre. Et là, vous voyez la foule qui arrive avec le drapeau noir devant, qui va demander au préfet la mise en liberté des grévistes arrêtés pour le pillage des magasins d'armuriers. Un autre exemple, 1907, de nouveau une grève, avec, alors évidemment, la mise en scène qui est un peu, ça c'est des cartes postales. Là aussi, bon, les termes qui sont utilisés, évidemment, sont des termes discutables. La première case postale en haut à gauche vous dit, c'est pas que c'est la préparation de l'émeute, comme si, n'est-ce pas, les émeutes étaient préparées et n'étaient pas un peu spontanées. La troisième, à droite, là, c'est après la bataille. En fait, ce n'était pas une bataille, c'est une échafaudée. Alors, voilà une autre image qui est assez intéressante, parce que c'est la même chose en Angleterre, mais la presse anglaise, qui est très en avance à l'époque sur la presse française, comme d'ailleurs la presse américaine, sont considérées très en avance. Dès le début, attaque les illégalistes, et là nous avons une photo qui est assez intéressante, parce que la première personne que vous voyez avec le chapeau haute forme, c'est Winston Churchill, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, et ils sont là pour attaquer un bâtiment où se trouve un anarchiste, Pierre le peintre, qu'en fait on n'a jamais retrouvé. Donc, c'est ce genre d'image qui va être repris un peu par la presse et autrement. Et donc, nous avons la fameuse affaire de la bande à Bono. Alors, vous voyez, là, c'est une photo de police sur le siège de la bande à Bono, l'a choisi le roi en 1912. Et vous allez comparer maintenant avec la photo carte postale où, comme vous le voyez, c'est probablement des gens qui ont posé pour faire la carte postale. Nous avons un exemple de reconstitution de la mémoire et de l'image. Encore une photo de police qui montre là la maison où la bande était réfugiée qui est incendiée. Et une carte postale sur la foule qui est mise en spectacle. Donc le peuple qui peut se regarder, qui se voit en train de regarder pour essayer de voir. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, voilà deux références qui sont peut-être intéressantes. Le premier, là, c'est un blog sur Internet de Jean-Marc Delpech qui a écrit un livre sur Marius Jacob. Et à droite, un livre de Hans Steiner sur les anarchistes individualistes et illégalistes à la Belle Époque. Je passe maintenant à la troisième partie, parce que ce que je voudrais maintenant arriver à essayer d'expliquer, et qui est peut-être un peu compliqué, mais j'espère que je ne vous ai pas encore trop fatigué, c'est que notre mémoire, elle fonctionne avec de nombreux paysages différents. Parce que nous avons un paysage familial, nous avons par exemple des paysages des lieux de notre enfance, nous avons un paysage social, un paysage national, etc. Et les paysages ont varié selon les époques. Par exemple, au XIXe siècle, moi j'ai étudié ça, par exemple, sur les Français qui partaient aux États-Unis au XIXe siècle, ben, ils ne se considéraient pas comme Français. Ils se considéraient comme Auvergnois, comme Bretons, comme Parisiens. Ils avaient des identités qui étaient locales. Et vous savez que beaucoup plus tôt à l'époque, lorsque par exemple Jean de La Fontaine allait visiter Limoges, ben, qu'ils se sont entretenus avec les belles dames de Limoges, ils avaient du mal à se comprendre parce qu'ils ne parlaient pas la même langue et le même français. Donc nous avons des mémoires qui sont quelquefois très circonscrites, qui sont très variées et qui sont composites. C'est un peu pour ça que je vous ai déjà montré un peu ces différents aspects de la mémoire policière, de la mémoire scientifique, etc. Mais ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que les mémoires que nous avons sont en train de disparaître. Certes, nous n'avons pas encore tout perdu. Il nous reste la mémoire du geste, par exemple le mécanicien, le danseur, le chirurgien ont appris les tours de main nécessaires à leur métier. Nous avons aussi la mémoire du corps, car lorsque nous allons chez le médecin, il est important de lui dire de quoi nous souffrons et quels sont les symptômes que nous éprouvons. La seule mémoire encore vraiment disponible, c'est celle de notre affectivité, dans laquelle nous pouvons revoir toutes les péripéties de notre vie de couple, de notre vie familiale et avec les enfants. Les joies, les émotions, les disputes, etc. Mais les autres formes de mémoire que nous pouvons avoir aujourd'hui sont en train de disparaître. Par exemple, nous avons besoin de filmer notre dernier voyage. On n'est plus dans la mémoire, alors. On est dans la trace. Cette photo-là, mais qu'est-ce que c'était déjà? Je ne me rappelle plus. On est dans la médiation, la distance. Ce que nous appelons mémoire n'est déjà plus de la mémoire, c'est de l'histoire. Et je cite Pierre Nora, « Pour l'histoire-mémoire d'autrefois, la vraie perception du passé consistait à considérer qu'il n'était pas vraiment passé. Un effort de remémoration pouvait le ressusciter, le présent lui-même devenant à sa façon un passé reconduit, actualisé, conjuré en tant que présent par cette soudure et cet ancrage. Sans doute fallait-il, pour que le sentiment du passé est lié, qu'une faille intervienne entre le présent et le passé, qu'apparaisse un avant et un après. Mais il s'agissait moins d'une séparation vécue, sur le mode de la différence radicale, qu'un intervalle vécu sur le mode de la filiation à rétablir. Nous sommes les enfants de notre passé. C'était un peu comme ça que notre mémoire fonctionnait. Or, aujourd'hui, cette mémoire individuelle est remplacée par l'histoire construction personnelle. Les fiches à notre sujet s'accumulent à la sécurité sociale, chez le médecin, sur Internet et dans les fichiers de l'État. Cette mutation s'explique parce que se sont évanouis les milieux sociaux qui servaient de support à notre mémoire personnelle, le village, le quartier, et ainsi de suite. La mémoire sociale se situe sur le plan de l'expérience vécue directement ou reçue par transmission. Or, les liens familiaux se distendent parce qu'il n'y a plus la famille élargie qui vit toutes les choses dans le même endroit et parce que les divorces se multiplient. Il y avait encore le milieu de travail, mais dans la mesure où maintenant nous aurons de plus en plus d'emplois temporaires, bien la mémoire collective du milieu de travail va aussi disparaître dans l'entreprise. En revanche, l'histoire, elle, se considère comme une discipline intellectuelle. Elle va reconstituer le passé à partir de ses traces. Comme nous n'avons plus de mémoire, nous devenons nos propres historiens, nous sommes passionnés d'histoire. Nous n'avons plus d'histoire, mais nous avons des photos, nous cherchons dans les généalogies, nous avons besoin de nous reconstruire une identité. Et bien sûr, plus nos origines sont nobles, plus nous sommes dignifiés. D'où naturellement le besoin de se créer des identités. Le métier d'historien, en fait, n'est pas très différent. Bien sûr, son travail se veut aussi détaché que possible des sentiments et des passions, mais, tout comme la mémoire, son histoire est un agencement. Alors voilà quelques exemples de mémoire individuelle. Le grand romancier chinois Baji, il était anarchiste aussi, un exemple de réminiscence où il raconte un peu comment était sa famille et comment il voyait ses serviteurs. Je revois la porterie et l'écurie de notre résidence de Chengdu. À la lumière d'une chandelle fumante, assis sur une vieille paillasse, j'écoutais sans fin les récits de vie blessée, humiliée, qui se terminaient toujours pourtant par la même phrase « Le cœur de l'homme doit être pur ». Les porteurs de palanquin qui vivaient dans l'écurie ouvraient leur cœur au fils de famille que j'étais. J'en ai passé des soirées dans cette écurie sans chevaux, humides et sombres. Les gens de la porterie vivaient mieux que ceux de l'écurie. au pas de beaucoup. Je me sentais très à l'aise au milieu d'eux. Plus tard, j'ai compris que c'est dans cette porterie et cette écurie que j'ai rencontré les premiers hommes dont le cœur avait été purifié par la dureté de la vie. Donc voilà un exemple de mémoire vécue anarchiste par les réminiscences. Une autre forme de mémoire vécue, c'est les écrits de prison. Nous avons la fameuse confession de Bakounine, nous avons les mémoires de prison d'un anarchiste et Alexandre Berkman qui est aux États-Unis et qui est considéré comme une des anthologies de l'histoire de mémoire de prison aux États-Unis. C'est un classique maintenant qui est mis dans beaucoup de programmes de littérature. Et alors l'autre exemple, évidemment, c'est les mémoires individuelles. Alors voilà des photos d'Alexandre Berkman qui était le compagnon d'Emma Goldman. Et vous voyez comment, évidemment, à travers les photos, on peut le voir dans des époques extrêmement différentes. La photo du milieu, si vous regardez bien, vous le voyez là, qui est dressée, en train de s'adresser à la foule. À gauche, évidemment, il est encore jeune. À droite, il part en exil avec Emma Goldman, parce qu'il est expulsé des États-Unis. En bas, à gauche, il est avec Macnaud, en maillot de bain. Ils sont en train de prendre un bain de soleil. Et à droite, ils sont sur la Côte d'Azur, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Saint-Tropez, mais qui n'était pas encore, évidemment, à la mode, où ils vivent leur exil. Donc vous voyez comment les photos aussi peuvent reconstituer la mémoire d'une manière très différente. Alors voilà un autre exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un meeting anarchiste fait par un croquis. Quelqu'un aurait-il une idée de qui a écrit ce croquis? Pas de suggestion? Pardon ?
Le peintre Pissarro.
C'est une image très très peu connue. Donc, je suis à la recherche d'ailleurs de l'exemplaire original. Si par hasard vous l'avez dans vos collections particulières. Voilà, n'est-ce pas, donc un meeting anarchiste vu par Picasso. Mémoire vécue encore un autre croquis après une perquisition de police. Alors il y a aussi bien entendu la mémoire sociale, la mémoire collective. Voilà comment les anarchistes alors se voient. Voilà la photo du congrès syndicaliste révolutionnaire de Londres en 1913. Alors là, nous ne sommes plus dans les mémoires individuelles, comme vous voyez, nous sommes dans les mémoires sociales. Vous voyez, pas beaucoup de femmes quand même. Comité d'entreprise anarcho-syndicaliste en Italie, c'est à l'époque évidemment le grand mouvement des conseils. La République des conseils en Bavière. Les funérailles de Kropotkine à Moscou. C'est après la Révolution russe. Des photos de la guerre civile en Espagne. Un camp de réfugiés espagnols en France en 1939. 1913, les anarchistes de Carrare en Italie, qui célèbrent le 1er mai. C'est tout le village qui est là. Un autre exemple de mémoire collective, c'est le fameux journal Freie Arbeiterstimme, qui est un journal en yiddish. Il faut vous dire qu'il y a des journaux qui aussi contribuent à la mémoire collective, n'est-ce pas ? Ce sont les journaux, non, surtout les journaux des minorités. Par exemple, il y avait des journaux français anarchistes et socialistes aux États-Unis au XIXe siècle, et qui racontait, par exemple, tant de mineurs ont été tués la semaine dernière, etc. Donc ça fait partie, non plus seulement de la représentation, mais c'est vraiment aussi, ça rentre dans la mémoire collective. Un autre exemple, les anarchistes italiens dans la lutte contre le fascisme, c'est un ouvrage qui est sur les journaux anarchistes qui ont paru pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un autre exemple, beaucoup plus récent, puisque c'est en 2009, n'est-ce pas, c'est une journaliste russe, Babounorovka, qui participait au groupe anarchiste russe, Action Autonome, et qui a été assassinée probablement par des fascistes. Donc vous voyez que les phénomènes se répètent dans une certaine mesure. Alors après, bon, bien sûr, alors on reconstruit la mémoire. Alors voilà un exemple de carte souvenir. Ça, c'est un poète et chanteur qui va mettre dans sa photo un petit texte et puis il va distribuer ça ou le vendre. Alors, les phrases qui sont là, je vous les lis. Je marche avec les insoumis, les révoltés, les rien qui vaillent. Les honnêtes gens, c'est trop canaille, pas moyen d'en faire ses amis. Et puis alors, nous avons bien sûr les chanteurs qui vont aussi transmettre la mémoire, ou qui vont appeler évidemment à la révolte d'une manière ou d'une autre. Par exemple, là, donc, Charles Davray, tu dois libérer ta compagne et pour l'aider à moins souffrir, bâtir un pays de cocagne dans lequel nul ne pourra la servir. Et puis nous avons évidemment la rue. Alors voilà les lieux de mémoire. Le monument anarchiste à Haymarket dont je vous ai parlé tout à l'heure, à Chicago, au cimetière, à un des cimetières de Chicago. Une plaque commémorative de Louise Michel, qui a été mise aussi par des anarchistes. Et quelques autres photos encore. Voilà un anarchiste, Mouna Aghigi, qui vous avez peut-être connu, n'est-ce pas, dans les rues. Une autre exemple anarchiste qui est évidemment très controversé, parce que moi je me rappelle avoir reçu des lettres sur Internet de gens qui m'ont dit « Ah oui, pendant que les Arabes nous tiraient dessus, vous étiez en train de les aider. » Un autre exemple encore, celui de Léo Campion, qui était franc-maçon. Il y a d'ailleurs une loge à son nom à Grenoble. Et enfin, un autre exemple, alors ça c'est maintenant des anarchistes qui essayent aussi de construire une histoire et qui essayent de retrouver les traces des différents documents, etc. En conclusion, eh bien je vous pose une question qui me semble importante. Si les mémoires collectives sont en train de disparaître, parce que les milieux qui les portaient ont disparu, il en est probablement aussi ainsi des milieux politiques et de la gauche. La mémoire était son arme et les nouvelles générations l'abandonnent. L'histoire a remplacé la mémoire. Est-ce que ce ne serait pas le cas aussi pour les anarchistes ? Merci. Excusez-moi, j'étais un peu long, j'espère que vous ne pouvez pas trop dormir. Mais ça fait du bien aussi de dormir.
J'aimerais pas bien comprendre ce que vous différenciez entre histoire et mémoire. Est-ce que vous pourriez...
Comment je fais la différence entre les deux? La mémoire est dans le vécu. C'est quand même une reconstruction aussi, parce que quand nous repensons à des choses que nous avons vécues, au fur et à mesure de la vie, nous les recolorons, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est quelque chose que nous avons vécu. Ça peut être vécu individuellement, ça peut être vécu collectivement. N'est-ce pas? Par exemple, on se rappelle, quand on était jeune, la grande farce qu'on a fait en groupe à tel professeur. C'est une mémoire collective, c'est dans l'ordre du vécu. L'histoire n'est pas dans l'ordre du vécu. L'histoire, l'historien travaille sur les traces, il travaille sur la presse, il travaille sur les archives, il travaille sur les documents, et il essaye de reconstituer le passé. Donc évidemment, comme le passé et la vie est extrêmement complexe, on peut reconstituer le passé de manière extrêmement diverse, un peu comme j'essayais de le montrer, c'est-à-dire que les uns vont voir la colonne de Vendôme en disant « Ah là là, on a quand même réussi à la renverser », puis d'autres qui vont dire « Quelle horreur !» etc. Et on a fait un procès à Courbet, n'est-ce pas ? On lui a voulu lui imputer tous les frais de la chute de la colonne Vendôme. Donc, il y a des mémoires différentes qui vont s'affronter, n'est-ce pas ? Et l'historien, est-ce qu'il va raconter l'une ? Il va raconter l'autre ? Il va raconter les deux ? Et il va peut-être raconter une troisième, qui est peut-être aussi intéressante. Parce que la réalité, c'est comme un gâteau qu'on peut couper en beaucoup de tranches, n'est-ce pas ? On peut le couper verticalement, on peut le couper horizontalement, on peut le couper de beaucoup de manières. La réalité, chaque moment de l'histoire, chaque moment présent, c'est une infinité de possibilités, une infinité de choses. Hein ? On pourrait faire, à partir de maintenant, par exemple, on pourrait faire l'histoire de la présence des gens ici, combien de gens qui étaient en noir, puisque c'était une conférence sur l'anarchisme, n'est-ce pas ? Et voir dans quelle mesure il y avait donc ainsi une présence cachée d'anarchistes, peut-être, dans cette assemblée. Ou on peut voir, je veux dire, l'historien va faire des sélections et va reconstruire une histoire donnée. Est-ce que c'est assez clair la différence que je fais ?
Oui, mais c'est obligatoire qu'à un moment donné, la mémoire disparaisse avec une personne. C'est l'histoire qui va remplacer la mémoire. Puisque le vous dites la mémoire, oui, c'est ce qui est vécu. Oui. À un moment donné, ils n'ont plus la même personne qui ont vécu.
Oui,
si on va parler de Bakounine, c'est de l'histoire, c'est pas de la mémoire.
Bien sûr, bien sûr. Le problème est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la mémoire de notre vie elle-même est devenue histoire. C'est-à-dire que, en fait, je ne parle pas des gens de votre génération, parce que nous avons encore notre mémoire, nous n'avons pas besoin de substituts de l'histoire. Mais je pense que dans la jeune génération actuelle, il n'y a plus ces lieux de mémoire aussi fréquents qu'avant, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a la fiction qui vient se substituer, il y a l'histoire qui vient se substituer, etc. Et l'histoire, elle fait des reconstitutions, n'est-ce pas ? Parce que, bon, on va vous montrer peut-être une photo de vous quand vous aviez 18 ans, et vous allez dire, tiens, ben oui, en effet, là, j'étais là, mais je ne m'en rappelais plus du tout, et on va reconstruire peut-être votre personnalité à partir de là, et puis vous allez dire oui, parce que, bon, nous sommes tout à la fois, n'est-ce pas ? Moi, je sais que, par exemple, bon, moi, j'ai à un moment donné, j'ai cru, j'ai étudié la caractérologie, et je me suis dit, la caractérologie, c'est une science sérieuse, solide, etc. Bon, si je dis votre caractère, je vais vous dire, vous êtes des émotifs. Quel esprit d'entre vous qui me dira que non, n'est-ce pas ? Je dirais, vous êtes des émotifs, mais vous ne montrez pas toujours vos émotions. Bon, je veux dire, à partir du moment, je vais vous dire, vous savez rester froid quand même, hein, quelquefois aussi. Hein. Donc je peux vous dire une chose et l'autre, et vous êtes tout ça à la fois. Nous sommes tous à la fois. Donc notre mémoire, elle a fait cette sélection, elle s'est construite une histoire qui est la nôtre, avec une identité, une certaine perception de nous-mêmes, n'est-ce pas ? Mais l'histoire, elle ne va pas nous voir comme ça, elle va nous voir comme un représentant de la ville de Nîmes, en tant que citoyen, qui a fait, je veux dire, c'est une autre lecture, c'est une autre lecture tout à fait différente. Alors c'est vrai que pour le passé, nous n'avons plus cette mémoire, encore que lorsqu'on sait comment dans les sociétés archaïques, y compris même dans les sociétés de Mésopotamie, etc., beaucoup de témoignages, l'Évangile, la Bible, etc., c'était quand même des mémoires orales qui étaient transmises, ce n'était pas de l'histoire, c'était quand même de la mémoire, n'est-ce pas ? Et les récits que vous avez pu entendre de vos grands-parents, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la mémoire, parce que vous avez vécu cette transmission. Mais c'est certain que si votre grand-père n'a pas connu Bakounine, vous êtes obligé d'aller dans l'histoire. Et alors c'est là que vous êtes soumis à toutes sortes d'interprétations possibles.
Oui, mais justement, je vois si... Bon, là, dans le cas de l'anarchisme, il ne faudrait pas distinguer l'histoire l'histoire des historiens qui ont reconstruit et qui supposent un travail sur des traces, sur des sources, sur des archives, etc. Et puis la transmission de l'histoire, enfin, la transmission d'une mémoire qui se fait, c'est-à-dire que vous avez montré justement toutes les idées toutes faites qui ont pu être construites à travers toute l'histoire du mouvement anarchiste, de la part des anarchistes, de la part de la police, de la part de l'opinion publique, etc. Et là, on n'est pas dans l'histoire, on est dans la transmission d'images, dans la transmission de représentations qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas critiques. Et ça, c'est une mémoire.
Oui.
Et cette mémoire, on en hérite tous.
Oui, oui, absolument, n'est-ce pas? C'est une mémoire vécue, n'est-ce pas? Bon, par exemple, quand on regarde les photos, quand on regarde, par exemple, les photos des entreprises au 19e siècle, n'est-ce pas? On voit le patron avec ses ouvriers autour de lui, etc. Mais, bon, pour eux, c'est un souvenir de leur entreprise, que ce soit pour les ouvriers, que ce soit pour le patron, etc. Mais pour l'historien qui va regarder ça, eh ben, il va faire une lecture qui sera très différente, parce que, par exemple, il va voir que plus les ouvriers avaient des tâches modestes, plus ils sont à l'arrière de la photo, n'est-ce pas? Et que le patron, lui, est au premier rang. Qu'à côté de lui, il y a les cadres. Et puis que les ouvriers, ensuite, sont répartis dans les zones secondaires. Ou alors, les ouvriers, ils sont montrés uniquement en train d'accomplir leurs différentes tâches, n'est-ce pas? Ils ne sont pas montrés nécessairement, eux aussi, en costume, etc. Donc, il y a quand même une lecture tout à fait différente, n'est-ce pas? Les photos que vous avez prises de vos dernières vacances, eh ben, si demain des historiens les regardent, ils en feront une lecture totalement différente de la vôtre. Mais c'est sûr que les mémoires que nous faisons aussi, que nos mémoires, notre mémoire à nous aussi est sélective. Je me rappellerai toujours, par exemple, chez mes parents, des amis qui avaient fait un grand voyage et qui montraient leur voyage, les photos duraient éternellement, mes parents en avaient assez, n'est-ce pas? Et ceux qui surtout les avaient lassés, c'est qu'on voyait beaucoup de maisons, on voyait beaucoup de bâtiments, on ne voyait pas une seule personne. Donc vous voyez comment les mémoires sont sélectives, il y a des gens qui veulent photographier les gens, d'autres qui veulent photographier les monuments. Ce sont des histoires différentes aussi.
Oui. Est-ce que vous pourriez illustrer sur un plan personnel, pour vous, ce qui relève de la mémoire et ce qui relève de l'histoire en ce qui concerne l'archisme et d'un point de vue.
Oui, tout à fait, oui, oui, je peux tout à fait. Bon, par exemple, j'ai le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui présentait les cinq doctrines anarchistes. C'est comme cela que moi j'ai découvert l'anarchisme à travers des doctrines, donc un point de vue doctrinal. Donc là j'étais dans l'histoire des idées. C'était même pas vraiment de l'histoire des idées, c'était parce que c'était présenté de manière un peu doctrinale. Donc bon, c'était du vécu aussi en même temps, enfin, j'étais dans l'histoire. Lorsque j'ai écrit ma thèse sur l'anarchisme, je suis parti, mon professeur, mon patron de thèse m'a dit « Moi je n'y connais rien du tout, mais quel que soit le domaine que vous prenez là, puisque c'est sur les États-Unis, il y a toujours un spécialiste américain, trouvez-le. » Alors je suis parti à Lausanne, où il y avait un centre d'archives international sur l'anarchisme, et j'ai demandé l'adresse de la personne, du spécialiste, et on me l'a donné parce qu'il l'avait. Et la personne qui s'occupait de ça m'a dit « Est-ce que vous avez rencontré aussi des anarchistes ?» Ça ne m'était même pas venu à l'esprit de m'en rencontrer, je pense que j'étais dans les idées. J'avais lu Hans Macker, pour moi l'anarchisme c'était des idées, ce n'était pas des personnes. Et ma première rencontre vécue dans la mémoire de l'anarchisme, c'est lorsque cet historien de l'anarchisme, qui n'était pas anarchiste non plus, a fait un cocktail pour nous recevoir ma femme et moi, dans son appartement new-yorkais, et a invité des vieux anarchistes avec lesquels alors nous avons découvert, sur le plan personnel, des gens chers et en os qui avaient tous dans les 60, 70 ans, 80 ans, et qui pour moi n'étaient pas assez vieux parce que je voulais commencer par le 19e siècle, n'est-ce pas? Voilà un peu des exemples entre l'anarchisme vécu et l'anarchisme historique. Alors si vous voulez, chez moi maintenant, ces deux phénomènes s'interpénètrent continuellement parce que je suis en contact avec des anarchistes très fréquemment, n'est-ce pas, parce qu'ils m'invitent souvent pour une chose ou pour l'autre. Et d'autre part, je suis aussi en contact avec des historiens, très souvent aussi, parce que bon, je suis invité à des jurys de thèse ou de choses comme ça qui sont sur l'histoire, donc je fonctionne sur, tantôt sur un tableau, tantôt sur l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à votre question, un peu anecdotique, mais...
Donc, de votre point de vue, les nouveaux anarches fonctionneraient plutôt sur le versant historique. C'est ce que vous voulez dire quand vous posez cette question? Quand vous posez la question de ne serait-ce pas le cas des nouveaux anarches, est-ce que vous pensez que les nouveaux anarches fonctionnent plutôt sur le versant historique, donc?
Oui. Bon, il ne faut pas généraliser. Hein. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous pouvez trouver des exemples contraires. N'est-ce pas? C'est évident. Quand on parle à ce niveau de généralité, je vous ai présenté une lecture et il y en a d'autres, n'est-ce pas? Bon, il est clair que, par exemple, bon, un jeune anarchiste qui est fils de réfugiés espagnols a encore cette mémoire vivante et vivace de l'anarchisme. Donc, lui, pour lui, cette mémoire existe, n'est-ce pas? Mais je pense que cette mémoire existe encore en France, dans une certaine mesure, parce que les mouvements se sont maintenus et sont extrêmement conservateurs, mais aux États-Unis, par exemple, ce n'est absolument pas le cas. Moi, je sais que chaque fois que je suis arrivé dans une ville aux États-Unis, je demandais, est-ce qu'il y a un groupe anarchiste ici, et parce que je rencontre l'anarchiste, et dit, ah mais oui, on vient d'en créer un il y a 3 ans. Il n'y a pas de groupe anarchiste qui ait 50 ans, 60 ans d'existence, à de très très rares, rarissimes exceptions près. Donc c'est le mouvement perpétuel, le changement perpétuel, etc. Comment voulez-vous que dans ces cas-là, alors maintenant, il se crée une histoire anarchiste sur l'Internet, mais ce n'est plus de la mémoire, c'est déjà de la reconstruction. Et je pense que... je vais vous donner un exemple personnel qui m'a quand même frappé, de l'oubli que nous avons, même à mon âge. Je discute un jour avec un historien américain, il y a quelques années de ça, et qui me dit, enfin, tu peux dire ce que tu veux, mais il n'y a eu de démocratie que dans les pays capitalistes. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Et puis, après coup, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mince, s'il m'avait dit ça, avant l'époque de la chute du rideau de fer, j'aurais pu lui dire, les capitalistes se prétendent une démocratie, mais les Russes aussi, les Soviétiques aussi, pensent qu'ils sont dans une démocratie, n'est-ce pas? J'avais oublié ce phénomène majeur de l'histoire que j'avais vécu pendant des années et des années. Parce que l'histoire, telle qu'elle est aujourd'hui, surtout, n'est-ce pas, la culture Kleenex dont je vous ai parlé la semaine dernière, elle nous fait oublier le passé, elle nous l'éradique continuellement, 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 de telle sorte que nous oublions les choses que nous avons vécues. C'est très dramatique d'ailleurs, je pense.
Est-ce que vous pourriez quantifier le mouvement anarchiste aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis ou dans le monde?
C'est très difficile, je ne sais pas, je pense que, vous voyez, je crois qu'il faut distinguer deux choses tout à fait différentes. Moi j'aime bien distinguer, en tout cas, tous les anarchistes ne le font pas, mais moi je le fais. Il y a les gens qui sont dans un mouvement organisé qui se dit anarchiste. Bon, je ne sais pas, en France, s'il y a peut-être quelqu'un qui est mieux enseigné que moi, qui a lu les derniers livres sur la question, je dirais en gros 10 000, à peu près. Maintenant, si vous dites des gens qui se comportent en anarchistes, qui pensent d'une manière anarchiste, le nombre est incommensurable. Je me rappelle, à l'époque de Régis Debray, pardon, Michel Debray, il y a eu des élections régionales, pas dans le Languedoc-Roussillon, et il y a eu, mais je ne me rappelle plus les dates et je dois avoir la trace quelque part, il y a eu des candidats que je ne connais absolument pas, qui se sont présentés à ces élections, qui étaient des élections, je pense que c'était, je ne sais plus si c'était départemental ou quoi, enfin bon, et en disant, je suis anarchiste, ne votez pas pour moi. Et là, ils ont eu plus de voix que les candidats de Debré. Lorsque nous avons organisé à Montpellier les journées libertaires en 1980, on a eu plus d'un millier de visiteurs. Lorsque vous voyez comment, par exemple, moi je pense qu'il faut beaucoup plus se poser la question, non pas en termes de personnes, qu'en termes d'idées. Lorsque les anarchistes disaient au 19e siècle, la femme est l'égale de l'homme, les gens disaient, mais ils sont contre nature, c'est de l'utopie, c'est pas possible. Et aujourd'hui, les idées sont passées, au moins dans certaines familles. Lorsque les anarchistes disaient, il faut le contrôle des naissances, ils allaient en prison pour écrire des choses pareilles, pour envoyer des méthodes contraceptives dans les journaux. Aujourd'hui, c'est passé. Et quand vous regardez un certain nombre de ces thèmes-là, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'idées qui ont été défendues par les anarchistes, pas eux seulement, mais par eux aussi, aujourd'hui, elles sont passées dans le grand public. Donc ce qu'ils ont dit n'était pas si contre nature, si utopiste que cela. Et ce qui me frappe aujourd'hui, par exemple, c'est que quand vous regardez les mouvements intermondialistes, il y a une chose qui est très frappante, c'est qu'ils ont très peur d'être manipulés et ils fonctionnent autant qu'ils peuvent de manière égalitaire, ce qui est aussi, encore une fois, une idée anarchiste. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut distinguer entre l'anarchisme conscient, organisé, historique, et d'autre part, cet anarchisme qu'il y a en chacun de nous, parce qu'à un moment de notre vie, nous pouvons être anarchistes. Et une collectivité peut l'être. À un moment donné. Et puis à un autre moment donné, ne l'est plus. Moi, j'ai vu à Paris, en mai 68, les Parisiens qui se parlaient les uns aux autres dans la rue. N'est-ce pas ? C'est quelque chose qui, aujourd'hui, quand vous allez rapprocher un Parisien, il va immédiatement reculer de peur d'être agressé. Voilà, une différence de situation.
Comme je n'ai pas la mémoire, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de Macnaud, s'il vous plaît ?
De Max Edlau ?
Macnaud.
Ah, de Macnaud ?
Macnaud. Nestor Macnaud.
Oui, mais je ne connais pas bien la question, hein, personnellement. Macnaud a participé, effectivement, j'aurais pu aussi montrer des photos de lui, n'est-ce pas ? Bon, il a participé à la révolution russe également, n'est-ce pas ? Et il a combattu contre les forces qui venaient de l'Occident pour essayer de réduire ça. Et puis ensuite, bon, il a été massacré, évidemment, par les soviétiques. Mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que vraiment, je ne suis pas sur ce plan. Je ne suis pas historien de l'histoire de l'anarchisme en France. Je suis historien de l'anarchisme aux États-Unis. Je ne suis même pas un vrai historien. Je suis un amateur. Eh bien, je crois que... il ne faut peut-être pas abuser de votre patience et de votre gentillesse. Je vous remercie beaucoup à tous d'être venus et